www.radiotopaz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Marc Copé.
Bonjour.
Marc Copé, violoncelliste, mais aussi directeur artistique d'un festival qui se passe à Colmar. C'est le musical de Colmar et qui souffle cette année ses 60 bougies.
C'est ça.
Vous n'étiez pas là à la première édition, je crois, c'est ça?
Non, je vous remercie, effectivement. C'est pas moi qui m'occupe de ce festival depuis 60 ans. À l'origine, c'est une association de mélomanes colmariens, probablement une des plus anciennes de France, qui s'est réunie pour organiser des concerts et qui a existé sous différentes formes. Ça s'est notamment appelé les Jeudis au Vieux Colmar pendant fort longtemps, puis les Jeudis de l'été musical, pour finalement devenir aujourd'hui les Musicales, festival dont je m'occupe. Mais en même temps, il y a une continuité, c'est-à-dire que les différentes formes que ce festival ou que cette saison ont prises n'ont jamais tourné le dos à certains éléments de tradition qui sont notamment le fait que c'est un festival avec une programmation très ouverte qui n'a jamais opposé la musique ancienne, la musique contemporaine, la musique vocale et le quatuor à cordes, voire l'orchestre. Hein, et à une époque où c'était finalement assez rare que d'avoir autant l'ensemble intercontemporain que le Freiburger Baroque Orchester. Et aujourd'hui, nous sommes héritiers de cette tradition. Et moi, c'est ça qui me plaît dans cette aventure. C'est qu'à la fois, aujourd'hui, le festival est quelque chose de très différent, puisque les musiciens sont en résidence pendant une semaine, que c'est un événement très concentré, qu'on profite du fait qu'une vingtaine de musiciens est en place pendant une semaine pour faire des programmes qu'un tel plateau permet, mais en gardant cette idée de diversité à l'esprit.
Donc cette année, la cuvée 2012 se déroulera du 12 au 20 mai. Vous avez voulu comment ce 60e anniversaire? Donc il y a évidemment toujours ce côté d'éclectisme de Bach et à Cage. On essaye de voir un peu à 360 degrés. Ça, on parlera peut-être après plus de vous, de votre carrière et votre violoncelle que vous emmenez aussi dans des territoires assez divers et variés. Donc comment ces 60 ans, à quoi vont ressembler ces 60 ans?
Eh bien, vous l'avez dit, de Bach à Cage, ça c'est quelque chose de très important, cette variété de répertoire de la musique ancienne à la musique contemporaine avec des formations très, très diverses. Ce qui est peut-être différent, enfin en tout cas ce qui est étendu, ce principe-là, nous l'explorons depuis des années, mais c'est étendu parce que pour ces 60 ans, nous avons élargi la formule, il y a un week-end d'ouverture en plus, et un orchestre, l'orchestre symphonique de la SVR de Freiburg, dirigé par François-Xavier Roth, et que nous sommes très heureux d'accueillir, qui vient en voisin, parce que l'Alsace et Freiburg, ce sont deux régions extrêmement, extrêmement proches, hein. Il y a 60 kilomètres, et en même temps, pas toujours les ponts que l'on pourrait imaginer. Le Rhin se franchit peut-être pas si facilement qu'on pourrait le croire. Donc ça, c'est aussi un axe qui, moi, m'importe, parce que je suis originaire de cette région, et le rapport musical, humain, entre la France et l'Allemagne, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc ça, c'est un élément fort. Et puis, en écho au premier concert qui a été donné il y a 60 ans par les organisé par l'association qui a commencé l'aventure, qui était avec l'orchestre de Mulhouse et qui comportait des œuvres d'Haydn et Beethoven. Donc ça, nous allons reprendre ça. Il y aura la 104e symphonie de Haydn, le triple concerto de Beethoven, et puis centenaire Cage oblige, une œuvre de John Cage. Ça, c'est un des axes que je veux souligner, parce que ça n'est pas vraiment notre vocation première que d'avoir des formations aussi larges. Nous sommes un festival de musique de chambre, mais en même temps, il y avait un élément de continuité comme ça, avec cette histoire ancienne que nous avions envie de souligner. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'en faisant un travail de recherche des archives, moi j'ai essayé, d'habitude, dans ce festival a souvent fonctionné avec des thématiques plus ou moins contraignante, hein, mais quand même avec une programmation assez structurée. Et là, moi j'avais envie de me libérer un petit peu de ça, même si c'est quelque chose que je ne renie pas. J'aime bien faire des programmations où on explore un thème, où on met en relation des choses. Ça peut se faire aussi par opposition, mais en tout cas on creuse une idée. Mais cette année, j'avais vraiment envie d'autre chose, et en creusant dans l'histoire du festival et en allant chercher des archives même beaucoup plus anciennes, je me suis rendu compte qu'en fait, d'une certaine manière, ce festival était l'héritier d'une tradition encore plus ancienne qui a pris forme au XIXe siècle, quand un baryton qui s'appelait Julius Stockhausen, un peu oublié aujourd'hui, mais qui était très célèbre, qui était un peu le Fischer Dieskau de son temps, qui a vécu en Alsace, qui était originaire de Guebwiller, ami de Brahms, ami de Clara Schumann. C'est en fait le premier à avoir organisé des concerts dans un esprit dans lequel moi je me reconnais complètement. Et qui organisait des soirées entre amis, beaucoup. C'était le côté house music que l'on pratiquait, qu'on commençait un peu à élargir. Finalement, c'est les premiers festivals de musique de chambre en plein milieu du 19e siècle. Clara Schumann est venue plusieurs fois et il faisait des programmations d'une liberté étonnante. Il pouvait y avoir à la fois une mélodie populaire bretonne, un trio Mendelssohn, un peu de clavier bien tempéré.
Comme les concerts salades de Jean Wiener, ensuite au début du siècle.
Oui, mais en même temps, il y a l'éclectisme, et en même temps, une sorte, bon, pour employer un mot plus à la mode, mais une sorte de convivialité, de liberté, et en même temps pas du tout un fourre-tout. Il y a vraiment une construction, il y a un rythme dans ces concerts.
Ce que j'allais vous dire, c'est aussi parfois la difficulté, quand on voit à 360 degrés, de dire super, on va mettre ça avec ça, c'est totalement opposé, donc ça va être super. Et ensuite, absolument, j'imagine peut-être aussi la donnée de vouloir construire quelque chose pour un public averti, et en même temps, sachant que ce genre de manifestation, parfois au niveau local, va faire venir un public pour qui ça sera peut-être les seuls concerts de musique classique de l'année. Donc comment on jongle justement un peu entre tout ça?
C'est effectivement une question épineuse, parce que les programmations thématiques, pour moi, c'était aussi une manière de baliser mon terrain. Et là, c'est la première fois que je pars dans quelque chose de beaucoup plus libre. Et je vois bien que ça n'est pas simple. Donc c'est pour ça que moi, j'ai essayé de baliser justement avec des éléments de référence à l'histoire de ce festival, et puis en même temps tout simplement le principe de plaisir, des œuvres qu'on a envie de jouer ou dont on sait que le public a envie de les écouter, tout autant que des choses qui sont plus rares. Bon, c'est le cas pour Cage, c'est le cas pour la création aussi, parce que depuis en tout cas que je m'occupe du festival, il y a tous les ans une création. Cette année, ce sera une commande qui a été faite par le festival à Bruno Mantovani, qui a choisi, parce que les compositeurs ont toujours carte blanche pour faire ce qu'ils veulent dans la limite de nos capacités à les servir. Là, ce sera une pièce pour violoncelle seule. Donc ça, c'est un élément important. Il y a aussi, par exemple, le chant de la terre dans la version de Schoenberg, qui est assez rarement donné, mais ça fait aussi partie du cœur de notre affaire que de donner ce genre d'œuvre, parce qu'il faut du temps, il faut être réunis, il faut des équipes de musiciens qui n'ont pas toujours la facilité de se réunir comme nous pouvons le permettre là. Donc moi, j'essaie aussi de profiter de ça, bien sûr, d'avoir des œuvres avec des effectifs un peu larges et qui, moi aussi, me tiennent à cœur. Faire le chant de la terre, c'est vraiment c'est un rêve que j'ai depuis... des années et que nous allons pouvoir réaliser.
On a l'impression parfois que finalement, l'éclectisme que vous offrez, le public se retrouve dedans, et parfois souvent plus ouvert que ce que certains producteurs de concerts veulent faire croire. On a l'impression que... On voit parfois certains festivals ou certains concerts avec des programmes rabâchés, etc. On a souvent ici à ce micro des interprètes disant qu'ils doivent batailler pour essayer d'imposer certaines œuvres et que souvent, à l'arrivée, le public est souvent signe des deux mains, alors que souvent, de l'autre côté de la barrière, parfois les gens sont plus frileux.
Oui, c'est aussi peut-être ce que j'espère être une récompense d'un travail sur des années, qui est un travail de longue haleine. Je crois qu'il faut vraiment s'inscrire dans le temps où on construit une relation avec un public et une confiance et on rencontre le public parce que ça fait aussi partie de notre identité que de permettre des moments de... Il y a des répétitions publiques, il y a des rencontres avec le public après les concerts. Tout le public est toujours invité à boire un verre de vin d'Alsace et des meilleurs d'ailleurs.
Parce que nous avons tant qu'à faire. Alors,
tant qu'à faire. Et nous avons la chance d'avoir des partenaires exceptionnels et qui s'enthousiasment pour le festival et qui nous donnent du vin de grande qualité. Et voilà, nous voulons que ce soit vraiment quelque chose qui soit donné à tous. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les musiciens d'un côté, le public de l'autre, à la buvette. C'est vraiment tout le monde qui se rencontre à l'issue des concerts. C'est maintenant une vraie habitude après chaque concert, de manière vraiment systématique. Donc il y a aussi des échanges à ce moment-là. Il y a aussi, pour moi, un besoin de savoir comment les choses sont reçues et ce qui me permet de penser un peu différemment d'une année sur l'autre. Et d'apprécier le fait que, par exemple, je me souviens d'un festival Brahms où on avait mis en regard le trio de Brahms, c'est le trio avec corps, et le trio de Ligeti avec corps, violon, piano, en hommage à Brahms. Et ça a été un des plus grands succès de la semaine, parce que c'est une œuvre qui est renversante, et beaucoup de gens n'étaient pas venus pour cette œuvre-là, et pourtant c'est une de celles dont on se souvient aujourd'hui. Donc c'est peut-être ce qu'on peut construire quand on a la chance de pouvoir s'inscrire un peu dans le temps, et qu'on pense une programmation ouverte. Oui.
Est-ce que ça a d'autant plus de valeur qu'on sait que les temps sont durs pour que la musique dite savante ou classique, les tribunes sont de plus en plus rares ou pas évidentes pour toucher parfois un public plus large. Et quand on se retrouve dans ce genre de manifestation, c'est aussi un moyen de transmettre un peu plus, de faire venir des gens qui habituellement peut-être ne viendraient pas à ce genre de musique.
C'est bien sûr un but avoué. Il y en a plein des objectifs. Hein, celui, bien sûr, pour des musiciens qui n'ont pas l'occasion de se réunir au cours de l'année, de se retrouver, qui sont souvent des amis, mais c'est aussi des rencontres. C'est aussi un espace de rencontre pour nous musiciens. Bien sûr, dans la construction d'un lien avec le public, je crois que c'est important et que vous soulignez peut-être l'amorosité ambiante ou en tout cas les doutes qui sont certainement fondés. En même temps, il y a des éléments de la vie musicale qui ont un succès fou aujourd'hui. La question, c'est aussi de comprendre l'évolution du concert. On a tous, je crois, nous tous, vous comme vous qui relayez l'information, qui la diffusez, nous qui jouons ou programmons. Moi, c'est pas le cœur de mon métier. Moi, je suis un interprète, mais je m'intéresse à cette question-là parce qu'effectivement, j'ai pas envie d'être dans une tour d'ivoire où j'arrive pour donner mon concert. J'ai envie de rencontrer le public. J'ai envie de savoir ce qui se passe, ce que le concert peut apporter aux gens. Il y a effectivement une réflexion à porter, je crois, sur les attendus du concert et sur une évolution. Mais c'est pour ça que je prenais l'exemple de Julius Stockhausen et Stockhausen et Clara Schumann. C'est quand même amusant de voir que quand on repart comme ça 150 ans en arrière, on voit des choses qui nous apparaissent très modernes et desquelles on s'est souvent détourné aujourd'hui dans la programmation. Moi, je crois quand même que il n'y a pas nécessairement à opposer le plaisir que peuvent prendre les musiciens à jouer telle ou telle œuvre, à promouvoir la création et le fait que le public va suivre. Je crois pas que les désirs et les envies des artistes d'un côté et du public de l'autre soient nécessairement voués à être opposés. Je ne le crois pas. En revanche, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à porter sur la forme du concert, sur Qu'est-ce qui fait que des gens qui ne poussent pas à la porte d'un théâtre ou d'un lieu répertorié vont le faire? Parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de le faire et qui, une fois qu'ils l'ont fait, peut-être ne le regrettent pas. Je pensais aussi à nous d'aller à eux. C'est ce qu'on essaie de faire en sortant du théâtre qui est notre lieu de référence, le théâtre municipal de Colmar. Nous allons jouer aussi bien dans des lieux patrimoniaux. Il y a quelques églises aux alentours qui sont vraiment magnifiques. Je pense à Ebersmünster, je pense à l'église du navire. Mais nous allons aussi jouer chez des viticulteurs parce qu'il y a des caves et des endroits, des chais qui sont des endroits de musique extraordinaires. Ça permet... vous allez croire vraiment que le vin porte une... Enfin, c'est vrai d'ailleurs. Dans une région comme ça, le vin a une place...
Culturelle aussi.
Oui, culturelle, absolument. Importante. Et ça permet, je crois, de nouer un autre type de relation.
François-Xavier Ross, que vous avez cité, les producteurs de vin d'Alsace, qui va vous aider à souffler ces 60 bougies du 12 au 20 mai?
Il y aura du monde, il y aura deux quatuors à cordes, l'un qui est le quatuor Tsiaminski, l'autre qui est le quatuor de Tokyo. Je suis particulièrement heureux d'avoir ces deux ensembles, et notamment le quatuor de Tokyo qui n'est pas si... qu'il n'est pas si courant d'entendre en Europe. Enfin, ils font des tournées régulières, mais enfin, ils sont basés aux États-Unis. Et c'est une joie, une chance d'avoir ce quatuor de légende. D'autant que moi, je suis ami du premier violon depuis fort longtemps, parce que nous étions étudiants ensemble aux États-Unis. Ça fait très longtemps que je souhaitais les avoir. Et voilà, ça a été possible. Il fallait un peu de chance que ça tombe dans leur emploi du temps. Mais c'est le cas là. Ils vont être là pendant 2-3 jours, jouer notamment l'opus 132 de Beethoven. Nous allons jouer le quintet de Schubert ensemble. Ils vont jouer un quatuor de Bartok, un quatuor de Mozart. Donc ça, c'est une présence forte et qui est aussi en résonance avec l'histoire des musicales, puisqu'il y a toujours eu une grande place dévolue au quatuor. Il y aura aussi la présence de trois jeunes merveilleux chanteurs, Maximilian Schmidt, jeune ténor allemand qu'on a pu entendre il y a peu de temps à l'Orchestre de Paris dans la messe de Gounod, que j'ai entendu à cette occasion-là d'ailleurs, et que j'ai découvert avec beaucoup d'enthousiasme, qui est jeune, qui n'a pas encore fait le Chant de la Terre en version concert, en version avec orchestre, et qui est particulièrement heureux de le faire justement dans la version de Schoenberg, parce que ça n'est pas la même exigence de puissance. Et une chanteuse finlandaise qui s'appelle Nina Kittel, qui est en résidence à l'opéra d'Helsinki. Il y aura aussi une autre chanteuse qui s'appelle Kira Duffy, qui a commencé une magnifique carrière aux États-Unis, qui a notamment fait pas mal de musique contemporaine. Elle a chanté avec Boulez, elle a chanté aussi avec Mazel. Elle est une des jeunes chanteuses qui débute sa carrière aussi au Met, mais en même temps, elle partage avec nous le goût des chemins de traverse, c'est-à-dire qu'elle chantera en même temps à la fois du Villa-Lobos et le Stabat Mater de Boccherini, qui est une œuvre assez rare, mais qui me plaît beaucoup, que je suis content qu'on puisse donner. Il y aura au violon Liana Gourgia, qui est une habituée du festival, ainsi que Valérie Skokolov, qui est déjà venue quelques fois. Et puis, pour la première fois, Philippe Graffin, violoniste français qui est basé en Angleterre et qu'on entend peut-être pas assez de ce côté-là de la Manche. Il y aura à l'alto Lise Berthaud, Nicolas Beaune, qui sont pour Nicolas est venu plusieurs fois, Lise sera la première fois, je suis ravi de l'accueillir. Gary Hoffman, au violoncelle, qui lui est un habitué et un vieux compagnon d'armes, pourrait-on dire, parce que nous connaissons depuis longtemps, nous avons joué souvent Quintet Sextuor duo ensemble et avons à des époques différentes, mais étudié dans la même école aux États-Unis, donc c'est quelqu'un avec qui on a une relation très, très proche et fraternelle, pourrait-on dire. Une très belle équipe d'instrumentistes avant, qui est constituée souvent autour des mêmes depuis quelques années, ce qui nous permet aussi de monter des œuvres qu'on ne pourrait pas faire autrement. Romain Guyot, la clarinette, Laurent Lefebvre, qui est celui qui a été, je crois, là le plus fidèlement depuis 8 ans, au basson. Hervé Joulin au corps, Juliette Turel à la flûte. Voilà, je crois que je n'ai pas oublié grand monde.
Vous vous êtes réservé quoi, vous ? Pas de titre personnel comme œuvre ?
Nick de Grotz, contrebassiste, ancien contrebassiste solo de l'orchestre du Concert de Gabot, et qui est aussi un habitué. Moi, je vais faire ce que je n'avais jamais fait jusqu'alors, parce que un directeur artistique, il se doit d'avoir une certaine discrétion, je pense. L'autoprogrammation, ça a ses limites, parce que c'est pas le but, évidemment. Mais je vais faire ce que je n'avais jamais fait, donc c'est un concert autour du violoncelle, parce que Bruno Mantovani ayant choisi de faire une création pour violoncelle seul, j'ai réfléchi à la meilleure manière de construire un programme autour de ça, en fait. C'était ça, que la création soit au cœur du concert et pas simplement un alibi au milieu du festival. Donc j'ai vraiment construit ce programme autour de cette œuvre. C'est le concert d'ouverture où il y aura des œuvres en regard. Cette création pour violoncelle seule qui s'appelle One Way, qui est une œuvre qui porte bien son titre, qui est une œuvre qui se développe de manière assez linéaire, comme ça, comme un trait qui se projette, j'allais dire, presque dans le vide, parce que c'est une œuvre qui a une énergie incroyable et qui s'interrompt, mais on a l'impression qu'elle pourrait continuer à se développer, qui est beaucoup liée à nos conversations avec Bruno Mantovani sur qu'est-ce qui fait l'essence d'une œuvre pour instrument à cordes seules, ce qui est très, très compliqué. Bien sûr, il y a la question du timbre, mais il y a aussi, à mon sens, ce qui fait que Bach est probablement au-dessus de toutes les œuvres pour instrument à cordes seules. C'est ce rapport à l'harmonie, ce rapport à la fois à l'harmonie développée, entendue, puis l'harmonie et la polyphonie dans ce qu'elle a d'implicite, de suggéré. Et c'est une œuvre avec le langage et le style, l'identité propre à la musique de Bruno Mantovani, c'est une œuvre qui, d'une certaine manière, se réfère à ça, qui contient une très forte richesse harmonique. Donc, en regard de cette œuvre, il y aura une suite pour violoncelle seule. Une autre œuvre de Bruno Mantovani, qui est deux contrepoints, de l'art de la fugue transcrit pour sept violoncelles. Donc, ensemble de violoncelle, je ne pouvais pas ne pas mettre Villa-Lobos, Bacchanas, Brasileiras, puisqu'il y avait aussi Bach qui était par là. Il y aura la première Bacchanas, Brasileiras pour violoncelle, et puis la cinquième pour violoncelle et soprano, avec Kira Duffy. Et puis Message Esquisse de Boulez, qui est probablement, à mon sens, l'œuvre la plus réussie pour ensemble de violoncelle, qui est à la fois merveilleusement écrite pour ensemble et puis qui en même temps dépasse complètement la question de l'ensemble de violoncelle.
Comment se porte la musique de chambre aujourd'hui en 2012, vous qui naviguez dans ces eaux depuis pas mal de temps, est-ce que vous pensez que les temps sont plus durs pour cette catégorie, enfin, je sais pas si vous... pour cette famille que pour l'autre? Quand on est dans un festival, on a l'avantage effectivement d'avoir une petite planète, mais au quotidien, comment vous voyez l'évolution de la musique de chambre depuis
plusieurs années. C'est une grande question que vous me posez là. Je ne sais pas trop par quel mot la prendre. Je crois, enfin, en tout cas du point de vue de l'exposition médiatique.
Parce qu'on sait souvent qu'il y a des modes, les modes sont partout, oui. Même dans la musique classique, on sait très bien que...
Oui, on sait bien que, si on regarde par exemple, pour le peu de place qui reste dévolue à la musique dans les grands quotidiens nationaux, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, parce que bon, la France est particulièrement mal lotie, mais enfin, par rapport à l'Allemagne ou aux États-Unis, c'est quand même encore bien pire ici. Il y a quand même plus de place pour la musique dans des grands titres... en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Mais malgré tout, on voit quand même de moins en moins de place pour la musique de chambre. S'il y a de la place, elle reste plus pour l'opéra et pour la musique symphonique. Ça, je crois que ça, c'est quelque chose qui a toujours été, mais qui est probablement encore plus accentué aujourd'hui parce qu'il y a de moins en moins de place. Donc, s'il y a moins de place, ce n'est pas la musique de chambre qui est mise en premier. Néanmoins, ça c'est pour la diffusion et pour l'information, pour l'image. En même temps, le public, je crois, est très proche de la musique de chambre. Il suffit de voir la floraison de festivals. Et les festivals, c'est quand même un peu le cœur de leur programmation, la musique de chambre. C'est très présent dans un pays comme la France, particulièrement. Donc, y a un enthousiasme pour ça. Il y a un public. Il y a un public fidèle, extrêmement passionné par la chose. C'est pas le même nombre. Je pense pas qu'aucun festival de musique de chambre puisse avoir autant de monde que le festival d'Orange. Je crois pas. C'est pas possible. Je pense que est-ce que c'est fait pour d'ailleurs ? On peut se poser la question. Est-ce que l'opus 132 de Beethoven c'est fait pour être joué dans le théâtre antique d'Orange ? Je suis pas sûr. On peut le faire. On peut tout imaginer. Mais au fond, moi, je ne suis pas si pessimiste par rapport à ça, au sens où, quand on pense que Mozart écrivait ses quatuors pour les jouer avec son père et Joseph Haydn, on aurait bien voulu, j'aurais bien voulu être une souris pour les entendre. Mais bien sûr, il y avait une ambition musicale absolument exceptionnelle. C'est peut-être là que l'ambition musicale était la plus forte, quand on voit la dédicace que Mozart écrit à Haydn pour ses six quatuors, il y a mis son âme, il dit qu'il n'a jamais rien composé qui lui ait donné autant de difficultés, qu'il confie ça à Haydn comme un père confierait son enfant, et en même temps, est-ce que c'était fait pour être diffusé si largement ? Alors si on pense à ça, finalement, ça va pas si mal. Si on pense que le quatuor à cordes, personne ne faisait du quatuor à cordes pour en vivre jusqu'à l'après-guerre. Premier quatuor à avoir commencé à vivre du quatuor à cordes, c'était le quatuor Guarneri, c'était le quatuor Amadeus. Avant, même le quatuor de Budapest, les grands quatuors de la première moitié du XXe siècle en faisaient au meilleur niveau, mais avaient besoin d'autres activités pour vivre. Donc ça, c'est le constat positif. Le constat plus négatif, c'est que, évidemment, ce qu'on appelle la crise, elle frappe la musique de plein fouet. C'est un peu moins brutal en France parce que, plus exactement, ça prend un peu plus de temps. C'est-à-dire, je vais beaucoup aux États-Unis en ce moment, là, tout d'un coup, il y a la crise, ça veut dire que tout d'un coup, du jour au lendemain, il y a des orchestres qui sont menacés, qui ferment, véritablement ferment, boutiques. C'est-à-dire qu'ils sont supprimés et vous avez des centaines de musiciens qui sont au chômage, des musiciens d'un niveau exceptionnel qui sont dans des orchestres du même type que nos meilleurs orchestres et qui se retrouvent du jour au lendemain sans travail. Ça n'existe pas ici. Néanmoins, je ne pense pas que ça aille très bien parce que à force de ne pas revaloriser les choses, il y a une paupérisation des musiciens, il y a une fragilisation. Regardez ce qui se passe pour l'Orchestre national d'Île-de-France, qui du jour au lendemain, alors qu'il a une mission éducative essentielle dans une des plus grandes régions d'Europe, se retrouve amputé de son budget. Enfin, et puis comme ça, brutalement, sans essayer de redéfinir les choses. Enfin, moi, c'est des choses que je trouve évidemment très alarmantes. Et la manière dont ça se passe est assez choquante. La musique en elle-même, les musiciens, le rapport à un public, c'est une chose. Après, l'économie de la musique, la place de la musique dans la société, la place de l'éducation et de la culture en général, je pense que l'Europe va pas très bien. Je pense que elle a oublié que c'était un peu le cœur de son identité. En tout cas, c'est mon sentiment que un certain idéal et en tout cas l'identification de l'Europe à sa culture et à l'art, parce que finalement, plutôt le mot art qui m'intéresse que le mot culture d'une certaine manière, parce que la culture, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Ça paraît fragilisé à un moment où, à l'inverse, quand on va en Amérique du Sud, on voit un intérêt pour la musique très fort. Quand on va en Asie, on voit un intérêt pour la musique très fort. Et ça, c'est quelque chose que je m'explique mal. Pourquoi l'Europe tourne un peu le dos à ce qui attire souvent des parties très éloignées d'elles-mêmes et qui crée beaucoup d'enthousiasme, d'attente ou... on voit l'argent qui est dépensé pour permettre l'éducation musicale en Corée, en Chine ou au Brésil. Là, il y a un mystère pour moi. Je m'explique mal.
Dans toute cette réflexion, quel rôle joue votre casquette de directeur artistique d'un festival comme les musicales? Vous êtes violoncelliste, vous êtes soliste, vous enseignez aussi. On parlera peut-être aussi de ça après, de la transmission. Donc de ce côté un peu pareil, on revient toujours à ces histoires de 360 degrés, quand on se retrouve comme ça, programmateur, et en même temps on est musicien soi-même, donc on sait ce que c'est que d'être programmé, comment apprendre. Quel impact cela a sur votre vision et de ce qu'est un musicien ou un interprète en général?
Ben, je crois que moi je me garderais bien de donner des leçons à qui que ce soit. Je pense que l'identité, le caractère, les aspirations d'un musicien, elles peuvent être très diverses. Il y a des musiciens qui sont très focalisés sur la musique, sur le travail de leur instrument, de leur partition, et au fond pas tellement sur la question de l'articulation entre ce qu'ils font et puis un public, la société. Et peut-être qu'ils n'ont pas tort, au fond. Enfin, l'artiste, il a aussi le droit d'être dans sa tour d'ivoire et d'y faire de grandes choses. C'est arrivé et ça arrivera certainement. Donc moi, je respecte ça tout à fait. À titre personnel, j'ai besoin d'entreprendre des choses, de rencontrer des gens, qui ne sont pas des gens de mon milieu. Et j'ai un souci de la place de la musique dans la société, d'une certaine forme d'engagement politique, d'une certaine manière, mais au sens des affaires de la cité, pas au sens d'être encarté. Mais ça m'intéresse. Moi, je suis... Alors, effectivement, vous le disiez, au travers de l'enseignement, parce que la transmission, pour moi, c'est important. Enfin, je n'oppose pas les choses. Ça a toujours été un petit peu comme ça. C'est pas papillonner, ça n'est pas l'éclectisme pour l'éclectisme, c'est simplement que je n'aime pas certaines oppositions ou boîtes dans lesquelles on pourrait être mis. J'ai toujours, dès que
vous avez une étiquette, vous êtes échappé à l'opposé.
Ça ne me va pas. J'ai une forme d'allergie à ça, que ce soit en tant que musicien par rapport à un répertoire. Je ne peux pas être spécialisé dans un répertoire. J'ai toujours joué de la musique ancienne, j'ai toujours fait de la création, j'ai toujours joué le répertoire romantique. Je peux pas choisir. L'un sans l'autre, pour moi, n'est pas concevable. Je ne peux pas imaginer de ne pas jouer de concerto et en même temps l'image du soliste qui ne fait pas de musique de chambre, ça ne me va pas non plus. Enfin, je peux avoir autant de plaisir à jouer, à faire du continuo dans une cantate de bar qu'à jouer le concerto de Dvorak. Et c'est pas, ça n'est pas des mots, c'est une vérité, une réalité de mon rapport à la musique depuis toujours, ce qui n'est pas simple d'ailleurs.
Ce que j'allais vous demander, vous avez dit depuis toujours, est-ce que cet éclectisme, cette curiosité, peut-être même avant tout plus que l'éclectisme,
je préfère,
ça a toujours été en vous, j'allais dire, depuis le pas de berceau, peut-être pas, mais tout petit déjà, dès que vous avez empoigné un violoncelle.
Oui, je ne m'en rendais pas compte, ce n'est pas une chose que j'analysais, il n'y avait pas de volonté du tout là-dedans.
Parce que parfois, quand on met le doigt dans l'engrenage d'une éducation musicale poussée, conservatoire, oui, etc., on n'a pas obligatoirement, dès le début, les yeux ouverts à 360 degrés. C'est le vrai poids des professeurs, des maîtres, etc.
Absolument. Là, j'ai eu probablement de la chance. Je me souviens, j'avais un professeur de piano qui, quand j'ai commencé le violoncelle, très vite, j'avais 2 ans de violoncelle, m'a apporté un jour les sonates de Beethoven et il les a déchiffrées avec moi. Ça, c'est un moment dont je me souviendrai toute mon existence. C'est vrai que la surprise de la découverte de cette musique, où le violoncelle, dans les 2 premières sonates de Beethoven, passe beaucoup de son temps à accompagner le piano, d'ailleurs. Donc, il y avait là un rapport qui n'est pas celui qu'on peut croire. Enfin, donc, je me souviens très bien de cette surprise-là. Je me souviens très bien... Je suis originaire de Strasbourg et c'est une ville, particulièrement à l'époque, où la musique était très fortement présente, où j'ai toujours fait pas mal d'orchestres, où j'étais dans des petits groupes où on faisait de la musique ancienne, où on faisait j'aimais bien faire du continuo, je parlais de ça. J'en ai pas fait énormément parce que j'étais étudiant, j'allais à l'école, etc. Mais je l'ai fait. C'est-à-dire que je l'ai fait aussi quand je suis rentré au conservatoire à Paris. Je me souviens, mon premier groupe de musique de chambre, c'était une sonate en trio de Bourg dans la classe de Bach, pardon, dans la classe de Maurice Bourg, et c'est une des plus belles expériences que j'ai eues au conservatoire de Paris. C'est un des moments où j'ai le plus appris, parce que Maurice Bourg est un musicien exceptionnel, parce que je jouais avec des instrumentistes avant, et parce qu'il y avait un côté décalé qui, je me rendais compte que c'était très complémentaire, voire indispensable par rapport à la classe d'instruments où je me sentais bien par ailleurs, mais où je n'aurais pas pu m'épanouir si je n'avais pas fait autre chose. J'étais à l'orchestre de la Communauté européenne. À l'époque, c'était la Communauté européenne. Maintenant, ce serait l'Union européenne. J'étais à l'orchestre français des jeunes. Donc, j'aimais bien ça, l'étiquette du soliste. J'avais cette ambition. Je l'ai toujours et je suis un soliste. Je joue ce répertoire-là. Mais effectivement, je pense que motivé moi-même par certains choix et aussi la chance que j'ai eue de rencontrer des musiciens qui répondaient aux mêmes caractéristiques a été déterminante. Oui. Mon premier professeur, Jean Deplace, était un magnifique violoncelliste en même temps que quelqu'un qui aimait et transmettait à ses étudiants la passion de l'orchestre. Et, Il disait combien il avait appris au moins autant avec les chefs d'orchestre avec lesquels il avait eu chance de jouer ou d'auditionner que en jouant son répertoire. Et ça, moi, je me reconnais là-dedans. J'ai appris beaucoup au contact de certains chanteurs ou en écoutant des cours de chant. Encore aujourd'hui, j'enseigne cette année pendant plusieurs mois à l'université d'Indiana, Bloomington, aux États-Unis, et qui a un département de chant très, très actif pour les étudiants. Mais il y a beaucoup de chanteurs de gloire de l'opéra international qui prennent leur retraite là et qui transmettent leur savoir à des jeunes chanteurs qui, en plus, ont la chance de pouvoir vraiment chanter des opéras dans des conditions absolument professionnelles, dans une grande salle avec un orchestre, etc. Et je suis allé écouter pas mal de cours comme ça, et c'est vraiment... C'est quelque chose qui me fascine. Donc, il y a eu certainement, oui, cette chance dans l'enfance ou dans les premières années de rencontrer des gens qui m'ont pas mis de hier.
Est-ce qu'il y a justement des rencontres dans ces premières années qui vous ont marqué plus que d'autres ? J'imagine que toutes les rencontres, évidemment, sont importantes, même celles qui se passent mal. Mais parfois,
c'est juste.
Est-ce que justement, il y en a certaines qui, musicalement, vous ont fait grandir ou vous ont vraiment... ont mis le doigt sur des choses qui restent encore aujourd'hui essentielles pour vous ?
Oui, je crois qu'avec un peu de recul, j'ai aimé et aussi recherché le contact avec des gens, des musiciens qui, au-delà de leur talent indiscutable et de ce qu'ils avaient réalisé dans leur vie de musicien, était vraiment dans l'idée de la transmission, et notamment dans l'idée d'une transmission qui dépasse même leur propre, enfin qui dépasse largement leur propre personne, c'est-à-dire pas la tradition, ça j'aime pas trop, mais parce que j'y crois pas tellement, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais la transmission, c'est-à-dire que il y a quand même un moment où Beethoven a dit des choses à Czerny, et il y a un moment où Czerny a dit des choses à Liszt, et
Rostropovitch, il a dit des choses à Copé ou pas ?
Oui. Oui, absolument.
Et quand vous l'avez croisé.
Bien sûr, et ça c'est quelque chose, c'est quelque chose d'essentiel. Et effectivement, la rencontre avec Rostropovitch, la rencontre avec Menuhin, la rencontre avec Starker, la rencontre avec Tortelier, les quelques cours que j'ai eu la chance de prendre avec Walter Levin aussi du Quatuor à la Salle, des chefs d'orchestre aussi, Leinsdorf par exemple, qui était un chef que vous avez un peu oublié de ce côté de l'Atlantique, mais qui a eu une carrière aux États-Unis extraordinaire et qui était un musicien qui vraiment fasciné, et c'était des gens qui étaient porteurs, au-delà évidemment du fait que on sait bien ce qu'ils représentent et la force de leur personnalité, et ça suffit comme ça, bien évidemment. Mais comme jeune musicien, moi ça m'a frappé de voir qu'ils transmettaient quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, et essentiellement en rapport avec les compositeurs. Et ma génération, je pense que moi j'ai eu cette peur un peu de la perte d'un lien. Eux, ils avaient ça. Ils avaient ça qui était donné. Menuhin, il a travaillé avec Bartok, il était élève d'Enesco. Enesco a joué pour Brahms. Enfin, il a entendu Brahms. Starker m'a raconté des histoires sur la manière dont Enesco décrit ce que Brahms faisait dans sa première sonate pour violoncelle. Alors, c'est pour ça, c'est pas la tradition.
On a l'impression de toucher, mais en même temps...
Oui, moi j'aime cette idée-là.
Le fil continue, ne se casse pas. Quoi.
Non, le fil ne se casse pas. Et ça donne pas la prétention de dire qu'on va jouer mieux. Brahms est plus près de ce que voulait Brahms. Ça, j'y crois pas un instant. En revanche, parce que de toute façon, on réinterprète, c'est bien ça notre métier, mais en revanche, oui, des informations très très précises et précieuses pour essayer de s'approcher de l'œuvre qu'on est en train de jouer. Ça, j'y crois, en revanche.
Alors, j'imagine, je ne vais pas vous demander de tous les passer en revue et de raconter à chaque fois, parce qu'on pourrait rester là encore 3-4 heures, voire 3-4 jours. Mais sur certains de ces grands noms que vous avez cités, que ce soit Rostropovitch ou Starker, qu'est-ce que vous garderiez aujourd'hui, rétrospectivement, au-delà de la rencontre humaine, de cette histoire de fil qu'on vient d'évoquer, une ou deux choses qui vous restent encore en permanence en vous aujourd'hui et qui restent des guides, des règles, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça.
Ce qui est intéressant, par exemple, dans les deux exemples que vous venez de citer, qui sont à bien des égards aux antipodes d'un autre, du point de vue de la personnalité, ce qui moi m'a amusé parfois, c'est que je les ai entendus dire la même chose. Ça, je trouve ça fascinant. Et ils le savent d'ailleurs, ils se sont rencontrés, c'était de personnages très opposés, qui se sont même un peu opposés, bien qu'ils se soient retrouvés sur le tard, parce que au fond, ils savaient aussi ce qu'ils partagent, ce qu'ils avaient en partage. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant, et le fait que ce sont des personnes qui sont allées vraiment au bout d'eux-mêmes et qui ont trouvé un équilibre qui me paraît très fécond entre la manière de servir les œuvres, mais vraiment, vraiment, de se donner complètement pour les œuvres qu'ils interprètent ou qu'ils interprétaient, en même temps que d'être des grandes personnalités, parce que quand on va en concert, on veut entendre des gens qui nous marquent, mais en même temps, on ne veut pas non plus entendre des gens qui se vendent eux-mêmes. C'est pas ça. La question, c'est qu'ils servent l'œuvre qu'ils sont en train de jouer. Donc cet équilibre très, très difficile entre être au service de l'œuvre et puis en même temps être un être humain qui a des choses à raconter par lui-même, c'est cet équilibre qui est quand même un peu compliqué pour un interprète. Je trouve que c'est une génération qui, parfois par des moyens différents, avec deux manières très différentes, a pas mal réussi le pari.
C'est des choses qui ont pu vous paralyser ou vous faire peur à un moment au début de votre carrière, justement, cette histoire d'un côté d'avoir la partition et d'être en contact avec ces gens, avec cette histoire de fil, de se dire « moi j'ai quelque chose à raconter aussi ». C'est arrivé en vous facilement, cette évidence ou...
Ce côté...
D'avoir quelque chose à raconter, soi.
Ah oui, moi, c'est pas du tout arrogant, mais c'est quelque chose comme, une part d'instinct, une part d'amour pour l'œuvre qu'on joue, en fait, peut-être tout simplement, ça peut paraître un peu fleur bleue, mais moi, je crois vraiment à ça, c'est-à-dire d'être vraiment tombé amoureux d'une œuvre, moi, ça m'est arrivé même enfant, donc, et dans cette espèce de passion naissante pour une œuvre, une forme de conviction, c'est-à-dire je veux la jouer comme ça. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut la jouer. Alors c'est naïf, c'est instinctif, puis après on passe beaucoup d'années à essayer de comprendre, à analyser, à évidemment passer par d'autres chemins, parce que ça ne suffit pas. Mais je crois effectivement qu'il n'y a pas de grand musicien sans grand instinct. On ne peut pas... Et puis il n'y a pas non plus de musiciens qui vieillissent trop, très bien si cet instinct n'est pas interrogé par le travail, l'analyse, la remise en question, le doute, etc. Mais je crois aux deux. Je me souviens d'une interview de Richter où il disait quelque chose à quoi je suis très sensible. Il disait à propos de plusieurs œuvres, enfin l'essentiel des œuvres qu'il a jouées toute sa vie, qu'il avait le sentiment de jamais avoir changé d'avis sur ses œuvres. Ce qui ne veut pas dire, je crois, si je le comprends bien, et en tout cas si je me fais mien son propos, ce qui ne veut pas dire qu'on le joue toute sa vie de la même manière, bien au contraire. Mais il y a comme un noyau d'une relation à l'œuvre qui reste inchangé, oui. Et quand vous parlez des grands musiciens, quand j'ai eu la chance de rencontrer... Il y en a toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein, parce qu'il ne faut pas non plus imaginer, il y a beaucoup de musiciens merveilleux aujourd'hui. Mais ce qui me frappe encore aujourd'hui, d'ailleurs, chaque fois que je rencontre ou que j'ai la chance de jouer avec des musiciens que j'apprécie particulièrement, c'est que plus les musiciens ont une personnalité forte et un rapport fort à l'œuvre, plus il y a de place pour celui avec lequel ils jouent. Moi, je me souviens très bien de la première répétition avec Menuhin, c'était le trio de Tchaïkovski. J'étais évidemment très intimidé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai rarement senti qu'il y avait autant d'espace. C'est-à-dire, en même temps, je jouais avec quelqu'un qui avait un rapport à l'œuvre tellement fort, tellement... j'ai encore ses phrases, sa sonorité, sa présence dans les oreilles jusqu'à la fin de mes jours, qui sont là, vraiment gravés. Et en même temps, c'était jamais quelque chose qui étouffait la présence des partenaires, au contraire.
Et après, le travail, c'est une leçon. Avec vous-même, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une aisance, justement, à oublier, finalement, qu'on est à côté de soi et avec soi et Menuhin ? En même temps, évidemment, c'est lui. Mais
oui, mais c'est porteur, en fait.
C'est un aimant, finalement, qu'un...
Oui, parce que ce sont des gens qui ont un rapport généreux à la musique. Et qui savent aussi... Et qui savent aussi mettre à distance leur ego pour que la musique passe au travers d'eux. Parce que je crois que c'est aussi ça. La phrase de Fischer-Dieskau sur l'inintentionnel, finalement. Quand on est dans l'intention en musique, c'est jamais très bon. Il y a un moment où peut-être on passe par là parce que ça fait partie du processus d'apprentissage, mais il y a un moment où il faut lâcher. Si le violoncelliste que je suis attaque le prélude de la première suite de Bach, qui est un sommet de simplicité et de beauté avec des intentions trop précises, ça marche jamais. Et il faut lâcher. Il y a une sorte de lâcher prise qu'on essaye de faire pour que l'instrument sonne, pour que le phrasé se développe, pour que la musique passe au travers de l'interprète. Et ça, c'est finalement... Ce serait peut-être, pour essayer, tenter de répondre à votre question, peut-être une des plus grandes leçons des plus grands musiciens que j'ai eu la chance de côtoyer.
Dans cet océan de musique dont on parlait tout à l'heure, même aussi bien au menu des musicales de cette année, que de tous les répertoires que vous avez abordés en concert sur disque, comment vous avancez, comment vous faites le tri, comment vous, que ça soit sur disque, en concert, dans vos choix personnels, votre curiosité, vous avez des phases, comment ça se passe? Vous savez clairement vers où vous voulez aller?
Il y a des phases qui durent depuis, depuis toujours, c'est plutôt des obsessions, je sais pas, ou alors des tuteurs, ou des choses avec lesquelles on avance, comme des compagnons des œuvres qui sont des compagnons de route, pourrait-on dire, ou des compositeurs. Ça, j'y reviens toujours, mais j'essaie de me tenir au fait de la création, par exemple. Ça, c'est vraiment important. C'est pas toujours simple, parce que même les spécialistes les plus pointus ont parfois du mal à suivre. Il se passe tellement de choses. Et puis, par définition, le tri ne se fait pas comme ça. Il se fera par l'histoire. Donc ça, c'est quelque chose qui m'importe et qui n'est pas toujours simple. J'essaie d'écouter les choses. J'ai aussi des amis avec lesquels j'échange sur le sujet. J'ai des amis compositeurs, musiciens, acteurs de la vie musicale d'une manière ou d'une autre, qui me font partager leur découverte. Ça, c'est, je crois beaucoup à ça. Autrement, parfois, tout simplement, il y a aussi le fait qu'il y a des œuvres que j'aime, qui m'intéressent depuis fort longtemps, mais que je n'ai pas pu jouer parce qu'elles n'intéressent pas beaucoup de monde.
Vous enfin, pensez à quoi, par exemple?
Par exemple, j'ai un exemple très précis, la symphonie concertante d'Enesco. Mmh. Enesco, pour moi, c'est vraiment une des figures les plus fascinantes de la musique au XXe siècle, enfin, de l'histoire de la musique même, j'irai jusque-là. Interprète, compositeur, chef d'orchestre, personnalité, homme merveilleux et grand musicien. Et sa symphonie concertante, je l'ai découvert il y a 20 ans, lors de mon premier voyage en Roumanie, on m'a donné sa partition. Et j'ai souvent parlé de cette œuvre, personne ne s'y intéressait. Et là, j'ai eu l'occasion de la jouer deux fois l'année dernière. Donc voilà, vous voyez, par exemple, il faut persister parfois et on finit par convaincre. Et d'ailleurs, c'est une œuvre qui a plutôt convaincu les gens qui l'ont jouée et entendue lors de ces deux occasions. Enfin, quand j'ai dit plus tôt, c'était un peu un euphémisme. C'est une œuvre qui a eu du succès, qui n'est pas simple, mais qui est extrêmement attachante, singulière, et qui, je crois, mérite sa place. Donc, il faut un peu se battre parfois sur le répertoire, bien sûr. Il faut persévérer.
Quand il vous reste du temps, vous écoutez beaucoup de musique quand vous n'en jouez pas
Alors, je dois avouer, oui, bien sûr, beaucoup, mais je dois avouer que j'ai...
Pas trop de violoncelle, j'imagine.
Assez peu de violoncelle, parce que j'en entends aussi en enseignant. En fait, c'est ma manière d'en entendre, c'est plutôt ça. Du coup, j'en entends beaucoup. Et j'entends beaucoup de monde, mais plutôt par là. Et donc après, les enregistrements, vous dire, j'en ai entendu beaucoup quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, peut-être un peu moins. Mais je ne suis pas allergique pour autant. Hein. Mais j'ai de manière générale un peu de difficulté avec la musique enregistrée.
Vous allez au concert, peut-être?
J'ai toujours aimé aller au concert, mais peut-être de plus en plus. Et j'ai besoin aussi d'aller à l'opéra, d'aller écouter des formes de musique que, par définition, je ne pratique pas. Où à la fois c'est de la musique et à la fois je peux oublier un peu plus facilement que je suis musicien.
Quels sont les derniers concerts qui vous ont marqué, par exemple?
Il y a eu un Othello à Bastille l'année dernière avec René Fleming, par exemple, qui reste dans ma mémoire de manière absolument inoubliable. Enfin, j'ai jamais entendu une voix comme ça... à l'Opéra Bastille. J'ai pas entendu les programmations de l'Opéra Bastille, donc je dis ça avec toutes les réserves. Hein. Mais moi, je n'ai pas entendu une voix emplir l'espace comme ça, une présence scénique comme ça depuis très longtemps. J'étais vraiment bouleversé. Je vais écouter aussi de la musique de chambre, je vais écouter du piano. Je suis un amateur de piano, donc je pense à des récitals de Sokolov, par exemple, qui m'ont marqué. Je pense à des concerts où j'ai eu la chance d'entendre ce qu'on a tendance à appeler les jeunes chefs, mais j'aime pas trop ça parce que je trouve que j'ai entendu par exemple Andris Nelson il n'y a pas très longtemps et c'est la première fois que je l'entendais. J'étais vraiment extrêmement touché parce que j'ai entendu là. Donc voilà, par exemple, quelques...
Vous embarquez vos oreilles parfois dans les terrains autres que la musique classique, au concert ou sur disque, ou pas?
Grâce à ma fille, oui. mais qui est un peu plus alerte que moi sur ces choses. Moi, je dois dire que oui, j'aime la chanson. J'ai toujours écouté un peu de chanson, enfin même pas mal à certaines époques. Après, il y a la question du temps et je dois dire que mes oreilles ont du mal parfois à différencier les choses. J'ai un petit problème de mémorisation c'est une difficulté pour moi. Ça ne veut pas dire que j'écoute pas, mais ça n'est pas simple pour moi de faire la différence entre des musiques qui, je vois bien pour la génération de ma fille, sont extrêmement différenciées et pour moi ont tendance à se ressembler un peu.
Alors, une fois que ces musicales seront passées, quels sont vos projets proches ou un peu plus éloignés sur scène ou au disque ou vos envies?
Juste après, j'irai... Nous allons faire une série de concerts avec l'Orchestre Poitou-Charentes autour d'œuvres de Théodore Dubois que nous avons enregistré
pour Mirare.
Ouais, exactement.
Très beau disque.
Merci, mais c'était une bonne surprise pour moi ouais. parce que je ne connaissais pas la musique de Dubois. J'étais un peu circonspect ouais. parce que voilà, quand on ne connaît pas, on se demande. Surtout que des grands compositeurs français de la fin du 19e, on pense qu'on les connaît tous. Ouais. Mais je dois dire que c'est vraiment une très heureuse surprise. Il y a notamment cette suite concertante pour violoncelle, piano et orchestre qui est une œuvre très, très originale. Et puis Fantaisiestück pour violoncelle et orchestre qui est une sorte de court concerto qui pourrait un peu faire penser au concerto de Saint-Saëns. Enfin, c'est vraiment de la très bonne musique. Donc ça, je ferai juste après. Il y a également un concert à Venise de musique autour de la musique de Dubois, César Franck. Et puis ensuite, depuis cette année, je suis directeur d'un orchestre de chambre, enfin, un orchestre à cordes qui s'appelle Les Solistes de Zagreb, qui est un ensemble ancien qui a été créé par un violoncelliste magnifique qui s'appelait Antonio Yanigro. Et donc nous travaillons ensemble depuis 6 mois à peu près. Et donc j'irai à Zagreb pour continuer ce travail que nous avons entrepris, la construction des saisons à venir, et notamment de la saison prochaine. Ça c'est une nouvelle aventure où à la fois je joue avec eux, je dirige, et j'essaie de réfléchir à ce que peut être un ensemble à cordes aujourd'hui, parce que c'est des structures qui ont fonctionné de manière très... très fort dans les années 40, 50, 60, enfin jusque dans les années 80 en fait. Et puis peut-être à cause de la spécialisation, d'un côté les ensembles de musique contemporaine, de l'autre côté les ensembles de musique ancienne, l'identité d'un tel ensemble est peut-être moins claire. Et moi ça m'intéresse précisément parce que d'abord ce sont des musiciens incroyables qui ont un enthousiasme, une qualité instrumentale, musicale, humaine. Magnifique, on travaille en orchestre comme si c'était la musique de chambre. On arrive le matin et on dit à quelle heure s'arrête la répétition. Il dit bah, quand vous voulez, c'est-à-dire qu'on est de 9-10 heures du matin jusqu'à 19 heures. C'est un espace ouvert de travail à organiser comme on veut. Donc ça ressemble à ce qu'on fait en quatuor à cordes, justement. Et puis un ensemble qui a vraiment développé une capacité à jouer des répertoires extrêmement variés. Donc ça, c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup pour les. Mois et même années à venir.
Bien, et bien en attendant, on ira vous aider donc à souffler ces 60 bougies des musicales de Colmar qui se dérouleront donc cette année du 12 au 20 mai à Colmar, évidemment. Merci Marc Copé.
Merci à vous.
Thank you.
www.cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.